I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chasseur me tuera, lapin en tribun, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Si mon petit garçon adore les chansons, il aime aussi beaucoup les histoires. Ma fabrique à histoires a souhaité supporter le tourbillon pour notre plus grand bonheur. Ma fabrique à histoires, c'est un peu le podcast pour les enfants et une belle expérience audio. Un joli boîtier sur lequel votre enfant branche son casque pour découvrir des milliers d'histoires, de comptines et de quiz adaptés à son âge. Les enfants retrouvent tous leurs personnages préférés en français ou dans une autre langue pour s'éveiller et assimiler du vocabulaire en langues étrangères. Dans ma fabrique à histoires, les enfants découvrent aussi de nouveaux récits, et celui que j'ai particulièrement retenu, c'est les super mamans. Des histoires qui mettent en avant différents schémas familiaux, comme la maman célibataire, la maman remariée, et d'autres thèmes que l'on retrouve encore trop peu en librairie. Et c'est justement le sujet que l'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans ce 7e épisode, je discute avec Lindsay, la maman de Scotty. C'est via Instagram que j'ai découvert le joli projet qu'elle est en train de réaliser pour sa fille et pour tous les autres enfants. Pour que la société évolue et que l'image des héros et héroïnes de livres pour enfants soit plus près de la réalité. Avec Lindsay, on parle de métissage, d'éducation multiculturelle et de transmission de valeurs. Bonne écoute!
Bonjour Lindsay, bienvenue dans le tourbillon.
Bonjour Mademoiselle Love.
Alors, tu es une femme noire, ton mari est un homme blanc, et il y a 2 ans, vous avez eu une petite fille tous les deux, Scotty, qui est donc métisse.
Exactement.
Dans un monde parfait, on pourrait se dire que le métissage n'est plus un sujet.
Un sujet tabou.
Voilà. Et donc, je voulais savoir si c'était en devenant maman que tu avais constaté que, si c'était toujours le cas, c'était toujours un sujet, ou alors tu t'es posé des questions avant, pendant ta grossesse.
Alors, pendant ma grossesse, il s'est passé un tas de choses. J'ai appris que j'avais une fille, ce qui était déjà un truc incroyable. Je pense que j'ai jamais réfléchi à avoir un garçon ou une fille. Et là, j'ai une fille. Et la question, elle se pose à comment fait-on pour rendre son enfant, ou même pour faire un adulte conscient, heureux, qui trouve sa place dans la société. Comment je vais faire pour l'éduquer au mieux? Des questions vraiment basiques quand on se rend compte qu'on est enceinte. Et j'ai été alitée 6 mois. Les 3 premiers mois, je n'arrivais pas du tout à réfléchir parce que je pense que mon corps a cru que c'était un virus. Mmh. Et du coup, pendant les 3 premiers mois, j'ai dormi. Mmh. Je dormais, je pense, 19 heures sur 24. Ouais. C'était compliqué. Et au bout du 4e, ça allait un peu mieux. Au bout du 6e, c'était encore pire. Et donc, je pense que j'ai revu mes priorités et je me suis dit, métisse, déjà noire, je me suis dit, si elle était noire, j'aurais fait ça, mais maintenant qu'elle est métisse, il faut qu'elle ait des deux. Qu'est-ce que les gens attendent des métisses? Enfin, c'est tout un questionnement qu'on se dit, comment on fait pour tenir un bon équilibre entre le fait qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle est quand même camerounaise. Mais j'ai quand même vécu en France toute ma vie, j'y vais de moins en moins, et puis je suis avec un franco-belge, il faut qu'elle le soit aussi, est-ce que c'est à moi de tenir ce rôle? C'est compliqué hein, de vouloir jouer la mère parfaite, je pense que c'est un peu ça le terme. Et du coup... je me suis posé plein de questions sur son identité et je pense que ça a germé au fur et à mesure du temps, pendant ma grossesse, après. C'est aussi plein de questions qu'on se pose à soi-même parce que quand on a grandi en région parisienne, qu'on est confronté à des problèmes qui sont d'ordre de pas avoir beaucoup d'enfants dans sa classe j'étais seule dans ma classe jusqu'à mes 15 ans. Donc du coup j'ai grandi à Neuilly. Et de Y sur Seine, et on n'est pas nombreux. Donc j'ai dû me forger une personnalité.
Et est-ce que du coup, par rapport à ta fille, justement, tu as des craintes par rapport à ce que toi tu as pu vivre ou ce que tu vois
Oui, c'est parce que j'ai eu toutes ces craintes quant à comment elle va grandir, s'identifier dans un monde où tout le monde a tellement d'opinions qui leur est propre et qui ne pensent pas aux autres, qui sont très égoïstes. Que j'ai fait ce livre, oui. J'étais très triste en parcourant toutes les bibliothèques pour juste un petit livre pour expliquer le métissage. Je ne voulais pas une héroïne fille ou non, rien. Je voulais juste avoir un livre où on dit à un enfant, on explique à un enfant. Les gens viennent de là parce que voilà, les gens viennent d'ici parce qu'il y a cette raison, parce que si les gens se mélangent, c'est pour ça. Et pas pour justifier qui on est, mais juste pour donner un sens aux choses communes, normales, qui arrivent à des gens qui s'aiment parce qu'ils n'ont pas la même culture, mais c'est la vie. La vie, quoi. Mmh.
Et est-ce que tu penses que ta fille, là, du haut de ses... Elle a 2 ans, c'est bien ça ?
Oui, elle va avoir 2 ans.
Est-ce que tu penses qu'elle se rend déjà compte d'une différence ?
Pas du tout. Alors, en faisant des études, parce que j'ai quand même interrogé 1 million de parents, les enfants remarquent une différence entre 4 ans et 6 ans. Donc, généralement, un enfant peut se rendre compte que l'autre enfant en face de lui n'a pas la même couleur que lui. Généralement, on se dit « Ah oui, pourquoi lui il est blanc ? Pourquoi je suis plus foncée que lui ?» Ça arrive un peu à cet âge-là. Et du coup, ils ont vraiment des fois des questions assez complexes et sur lesquelles les parents répondent avec un ton très anodin, mais ça ne devrait pas parce que je pense qu'on éduque un enfant dès le début. S'il demande pourquoi l'autre est handicapé, il ne faut pas lui répondre que hey, bah, que j'ai perdu une jambe. C'est qu'il y a des gens qui sont handicapés parce que voilà, il leur arrive des fois dans la vie, ils ont des accidents, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Et puis il y a certains qui naissent handicapés parce qu'ils ont des problèmes moteurs ou voilà, une certaine maladie. Et puis il y a ceux qui par vieillesse, enfin, une explication. Sinon, après, on laisse son enfant toujours dans l'attente de pointer du doigt les autres parce qu'il n'a pas eu la réponse à sa question.
Et alors, est-ce qu'avec le papa, vous avez les mêmes questionnements sur ce sujet ?
Alors. Je pense qu'il se pose des questions aujourd'hui, parce qu'avant il ne se posait pas les mêmes questions. Et je pense que comme il découvre mes posts comme à peu près les lecteurs, des fois je l'interpelle ou ils se sont pointés du doigt sur certains posts, alors que pas du tout. Je ne fais que parler de mes réflexions et écrire sur mes réflexions. Et non, avec le temps, il arrive à se poser quelques questions. On y réfléchit ensemble, il a son opinion, j'ai la mienne, mais on essaye de trouver un terrain d'entente sur le fait que, bah oui, demain, elle arrive, elle te dit que quelqu'un l'a traité de sale noire, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Parce que ça peut arriver. Je dis, il faudra bien que tu ne sois pas détachée de ce sujet, donc on ne sait jamais. Je ne pense pas que ça arrive tous les jours, mais ça pourrait arriver et puis ça pourrait être blessant. Et du coup, oui, ce sont des questions sur lesquelles il a fallu qu'il réfléchisse. Et puis, demain, ses cheveux l'embêtent, comme maintenant, parce qu'ils sont quand même bien frisés. Lui, ses cheveux sont quand même assez agréables au toucher. Et je dis, on ne tombe pas sur des nœuds en tout cas. Et du coup, il faut répondre à la question. Mmh. Il faut qu'il ait les réponses et qu'il ne soit pas juste papa qui ne s'implique pas sur les fondamentaux, les questions fondamentales de Scotty. Oui.
Et alors, comment vous allez l'éduquer tous les deux dans son métissage ?
Ah, c'est une belle question, ça. Comment nous allons faire ? Bon, déjà, je pense du principe qu'on fait déjà pas mal de notre mieux. Et du coup, nous, c'est un peu particulier. On va acheter en Afrique un appartement et on compte... parce que ma mère a déjà un appartement au Cameroun. Et moi, j'attends que qu'elle soit en l'âge de pouvoir parler pour aller au Cameroun. Parce que justement, non, j'ai envie d'avoir son avis. J'ai envie qu'elle discute, qu'elle parle, je veux qu'elle soit consciente des choses. Voilà. Donc, en y réfléchissant, en parlant, lui et moi, on se disait toujours que, enfin, en hiver, on ira en Afrique et en été, on reviendra profiter de Paris ou de la France. Voilà. Donc oui, on va avoir vraiment une éducation très afro-française.
Tu demandais récemment aux gens qui te suivent donc sur Instagram ce que signifiait pour eux le mot métis. Alors déjà, tu as eu des réponses un peu surprenantes, je crois.
Non, est-ce que t'es allée voir? Parce que ceux qui écrivent les livres, les encyclopédies, ils sont pas très, très humains, on va dire. Parce que j'ai eu le mot hybride.
Ouais.
Pourquoi? Comment? C'est pas une voiture qui marche au diesel et à l'électrique, quoi. C'est un peu particulier. Je me dis, on se bat tellement pour de nombreuses causes. Et c'est quand même un sujet si... Enfin, c'est accessible. Enfin, je veux dire que c'est assez anodin. Je sais que tu es métisse parce qu'on en a parlé.
Mmh.
Dis-moi, tu es...
Franco-écossaise.
Bah voilà. Mmh. Et c'est justement... Et je te dis, c'est quand même dur de se faire taxer d'hybride. Donc oui, je pense qu'on se bat beaucoup pour plein de causes, mais on oublie des fois que la société a tendance à nous mettre dans des cases.
Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme définition de métis?
Pour moi, c'est un mélange de culture, de couleurs, de plein de choses. Dans le métissage, on a plusieurs particularités, plusieurs définitions, plusieurs combinaisons. J'aime bien ça. Je n'aurais pas trouvé mieux et je trouve que, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 mots non plus pour définir quelqu'un qui a plusieurs origines. Et non, j'aime bien le terme métis. C'était vraiment ce mot d'hybride qui m'avait dérangée. Je pense que j'ai écrit en plus à la Rousse et compagnie parce que je me suis dit, pour tant qu'à faire, il y a peut-être quelqu'un qui le verra.
Et donc, tu as écrit le livre Je suis métis. D'où est venue cette envie?
Alors, ma belle-mère, la mère de mon chéri, achète énormément de vêtements à ma fille et elle en avait acheté tellement que je savais plus où les mettre et du coup avant que l'enfant ne naisse, elle avait déjà un dressing et j'ai demandé à tous mes amis, au lieu d'acheter des vêtements, offrez-moi des livres, je vais lui faire une bibliothèque parce que le rêve dans ma vie c'est d'avoir une énorme bibliothèque. Je ne lis pas tant que ça mais j'ai toujours l'idée de vieillir en lisant plein de livres parce que peut-être que j'aurais plus les jambes pour pouvoir voyager. Et du coup, j'ai ma très bonne amie, Sarah, qui revient de là et qui me dit « c'est incroyable, j'ai cherché partout un livre qui pourrait ressembler à Scotty, j'en ai pas trouvé. » Donc, du coup, je t'ai acheté cela. Et je me dis « c'est pas mal, bon, moi je vais aller me faire aussi ma bibliothèque parce que il faut aussi que j'alimente... ma bibliothèque, j'ai reçu plein de livres, des gens se posent des questions ou pas, mais elle est la seule qui m'est vraiment interpellée sur ça. À cette époque, j'habitais dans le 6e, donc il y a une grande bibliothèque dans le 6e, il y a aussi celle de la Canopée, donc du coup j'y vais, je vois plein de livres, enfin ils ont fait des bouchons, Rosa Parks, tout ça, enfin il y a des bons livres, et mais je cherche un livre avec une héroïne métisse, je me dis, j'en trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas bien grave, je vais quand même chercher un autre livre qui va me parler de métissage. Donc, je vais à une autre bibliothèque, je recherche, je vais à la Fnac de la Rue de Rennes, je recherche, je vois pas. Je repasse sur internet et je commence à regarder et puis je m'intéresse, je commande les livres qui m'intéressent et je me dis toujours que je suis sur ma faim. J'ai pas un livre qui parle directement aux enfants, qui leur explique tout simplement sans avoir un côté... mièvre, ou vraiment je me plains, ou la misère du monde, ou juste une explication simple et claire pour dire que ben voilà, ça concerne tout le monde, il y a des gens chez qui ça se voit, d'autres chez qui ça se voit pas, mais que les gens en règle générale sont quand même assez métissés.
Parce que là tu voyais quoi comme livre, c'était
Généralement quand il y a une héroïne noire, elle est de Ouagadougou ou du Sénégal, ou c'est qu'elle est dans sa ville et puis
dans sa ville, il n'y a peut-être pas d'électricité ou de je sais pas que de trucs comme ça. Enfin, je ne vais même pas me dire que c'est mauvais, c'est une réalité qui existe. Mais du coup, moi, je cherchais quelque chose de franco-français. C'est la réalité de Scotty, parce que Scotty, c'est quand même une jeune fille qui est née dans le 14e, qui vivait à cette époque-là dans le 6e, dans le ventre de sa mère et hors, elle était plus française que n'importe quel enfant. Et du coup, je me dis que je vais écrire un livre, au départ que pour elle. Je vais faire un livre et puis je vais le mettre à la maison, elle pourra le consulter quand elle en aura l'âge. Et avec le temps, je me dis c'est dommage quand même, parce que j'ai quand même un peu de gens qui me suivent, si le peu achète, si ça peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Il n'y avait rien de militant vraiment dedans, il y avait juste quelque chose de pacifique et de très simple, d'informatif. Elle est métisse, voici comment on fait des métisses, qui est métisse, qu'est-ce qu'on appelle métisse, et puisqu'il y a des enfants du coup qui se posent la question, est-ce que moi si je suis français, néerlandais, je suis métisse. Et donc le métissage c'est tellement de choses que... c'est vrai que quand on cherche la nature profonde des gens, on est presque tous mélangés de quelque part, on a toujours des ancêtres qui viennent d'un endroit ou d'un autre, je voulais vraiment faire un livre informatif, mais vraiment pour que un autre enfant, qu'il soit noir, blanc, bleu, jaune, n'importe quoi, se dise que voilà, c'est une jeune fille métisse, parce que elle c'est de là et de là, je reconnais aussi pourquoi un enfant n'a pas la même couleur que moi, et juste faire le rapport avec d'autres enfants ou pas, et juste se poser des questions simples auxquelles on peut répondre au quotidien.
Et comment tu expliques qu'il n'y ait pas de livre du coup
Je ne l'explique plus. je pense que à partir du moment où je me suis dit je vais l'écrire et que je suis rentrée dans la réalité de plein de parents et j'ai lu plein de blogs dessus, d'ailleurs j'ai lu le blog de Mademoiselle Roots qui avait fait justement un livre qui s'appelle Comme un papillon, comme des papillons noirs, et j'ai lu aussi le blog d'une autre fille qui s'appelle Le Livre de Mumu, oui, et qui est d'une autre maman aussi, Maëva Danse, et du coup ces mamans là étaient la première n'était pas maman, mais les deux autres si. Les deux autres avaient vraiment des questionnements pour se dire que c'est incroyable que ça n'existe pas. C'est quand même un peu fou. Et puis, je pense que personne ne l'explique. Et sûrement parce qu'aussi, les gens ne l'achètent pas. C'est une réalité. Je pense que les parents ne saisissent pas l'importance. Parce que j'ai même eu des messages, moi, à mon petit niveau, où les mamans ne se sentaient pas du tout impliquées. Oui, c'est peut-être pas notre cible. Je pense que c'est important, juste dans une démarche de parents, d'homogénéité, même dans les livres jeunesse, de se dire que on a d'autres héros qui ne ressemblent pas toujours à nos enfants, comme on a plein de héros, des animaux, qui certes ne ressemblent pas toujours aux enfants, mais qui ont cette volonté justement de donner des émotions, de leur apprendre plein de choses. Et justement d'ailleurs... En lisant plein d'articles sur internet lorsque j'essayais de m'informer dessus, je voyais que les animaux prenaient une très grande place dans les livres pour enfants parce que c'était plus facile de représenter un éléphant sympa, une tortue et tout ça, un ourson. Il y a 50% ce sont les animaux, 36% ce sont des personnes blanches, et pour tout le reste c'était une espèce de minorité où on plaçait les noirs, les handicapés, les asiatiques, les indiens, et on se rendait compte qu'en fait, en termes de représentation au niveau des enfants, il n'y en avait pas assez. Et du coup, j'ai voulu tout ça représenter pour dire que c'était possible. C'était juste possible de le faire si on en avait juste un peu envie, parce que si on reste sur le fait qu'un enfant est un enfant qui regarde un livre d'une manière sans idée, pourquoi devrait-on les mettre dans un quota ? Parce que c'est quand même incroyable de mettre tes enfants dans un quota et de se dire que, enfin, moi je vois pas la différence, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on peut mettre que des Indiens, que des Asiatiques, enfin, on met que des Noirs aussi dans une salle de classe, on ne met que ça, et puis on se dit que de toute façon, ils ne voient pas la différence.
Et comment on s'y prend alors quand on a l'idée d'écrire un livre pour enfants ? Par quoi on commence ?
si on dessine pas, trouver l'illustrateur. Ouais. Parce que c'est compliqué. J'en ai démarché plein. Et je l'ai vraiment fait au feeling sur un dessin, une image que j'ai vue. Et je me suis dit, c'est elle. Et ensuite, il y a les personnages qu'il faut arriver quand même à mettre avant de faire le texte. Et puis, il faut que ce soit assez homogène, donc bien compté, qu'on a mis le bon nombre de personnes au bon endroit et qu'ils apparaissent quand même de façon équilibrée. Un exercice difficile, ça ne se fait pas en un mois, ni en deux. Et même l'écriture, je me suis rendu compte qu'entre 3 et 6 ans, les enfants, on ne peut pas leur parler d'un sujet en butant dessus, parce que c'est trop. Il faut expliquer quelque chose simplement, mais rapidement, avec des mots vraiment très clairs. Et du coup, à la fin du livre, on reste toujours dans le métissage, mais on parle de voyage, qui est la raison principale de pourquoi les gens se mélangent.
Et comment t'as inspiré Scotty pendant toute cette période d'écriture ?
Sur le fait de ne pas lâcher, de pas abandonner. Je pense que quand on devient maman, après avoir accouché, on se dit on est capable de tout. Il n'y a plus rien qui peut nous dépasser, il n'y a plus rien qui peut nous faire vraiment mal. On a accouché. C'est le truc le plus douloureux au monde et le plus dur. Et vu comment ça déforme physiquement, mentalement, cérébralement. Enfin. Donc je pense que oui, ça m'a aidé à ne pas lâcher parce que justement. Qui aurait cru que j'écrirais un livre ? J'aime lire, j'aime écrire, mais très peu, une petite dose. Et du coup, là, il fallait faire quelque chose d'assez construit, et du coup, j'ai dû voir d'au moins 10 000 personnes pour me demander si ça avait un sens, ce qui prend énormément de temps, même de voir des parents, de discuter avec eux, de voir leurs réactions, parce que c'est les parents qui achètent, ça reste toujours des parents qui éduquent. Et du coup, je me suis confortée en écoutant même certaines remarques désagréables, en me disant qu'il faut le faire. C'est pas si ridicule comme idée.
Qu'est-ce que tu souhaiterais apporter en plus avec le livre « Je suis métisse » ?
Le dernier article que j'ai écrit, qui était justement sur le fait que je ne comprends pas qu'en ayant sorti un livre avec « Je suis métisse », il y a des parents qui viennent me féliciter en disant « C'est génial, ton projet est bien, bah, dommage que j'ai pas un enfant noir, dommage que j'ai pas un enfant blanc. » Je comprends pas, j'arrive même pas à poser le fait de dire juste que j'ai pas un enfant métisse, parce que je veux vraiment interpeller tout le monde sur le fait de se dire que quand on écrit un livre pour enfants, c'est la démarche du parent de se poser la question de... Est-ce qu'il veut transmettre quelque chose à cet enfant, à son enfant, à sa progéniture, en disant, ben voilà, c'est un livre différent, voilà comment d'autres enfants pensent. Ça me paraît tellement évident. C'est comme si je disais chez moi que je n'allais acheter que des livres avec des petites filles noires. D'ailleurs, ça n'existe pas beaucoup, des héroïnes noires, en France. Et du coup, j'achète des livres parce que c'est une émotion que je souhaite transmettre. Parce que quand elle est très en colère, j'ai envie de lui expliquer que la colère, ça ressemble à ça. Et même, j'ai eu envie à un moment donné d'apprendre sur le handicap. Parce que dans ma famille, j'ai deux personnes qui sont handicapées. Et je trouvais que c'était dommage qu'on ne leur donne pas la parole, qu'on n'écrit pas de livres pour eux. Et je voulais faire une bibliothèque du monde, comme chez moi, j'aime bien lire, et j'aime bien découvrir. Des fois, je rentre dans n'importe quelle bibliothèque parce que c'est joli, parce que ça m'attire, et je cherche un livre hors du commun, et je demande au libraire, quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a époustouflé, c'est lequel? Et puis on me dit, ah, c'est celui-là. Et je rentre chez moi, je le lis, et puis voilà, j'ai voyagé chez moi, j'ai pas souvent l'occasion de le faire. Alors du coup, on voyage à travers les livres, et voilà, c'était ma démarche en faisant un livre. Et le premier, c'était « Je suis métisse » parce que pour moi, c'est une question d'identité. Personne ne s'est jamais fait sans se connaître vraiment. Pourquoi on voudrait qu'un enfant ne sache pas définir qui il est, se dire qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort? Enfin, je pense qu'on doit attacher des adjectifs qualificatifs pour son enfant et trouver toujours le meilleur. Et cette phrase, pour moi, elle est très percutante parce que c'est une petite fille qui s'est présentée comme ça. Quand je lui ai demandé, du coup... parce que je venais faire ma petite étude avec plein d'enfants, et du coup je lui montrais les photos pour demander, lui il est comment, et lui il a un problème, et puis lui pourquoi. Et puis, du coup, je lui demande, alors toi, t'es pas comme papa, t'es pas comme maman, t'es quoi? Elle me dit, je suis métisse. Et c'est en racontant cette histoire à mon beau-père qui m'a dit, bah, appelle ton livre comme ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, c'est assez fort, c'est un parti pris, certes, mais j'aurais pu dire les aventures de Scotty à l'école. Je n'aurais pas plus d'intérêt que d'autres personnes, mais je pense que quand on lit Je suis métisse, j'espère que la moitié des parents se retournent pour regarder le résumé de l'histoire qui dit que c'est une petite fille qui se présente un moment à l'école. Elle dit je m'appelle Scotty, j'habite à Paris, j'ai un poisson qui s'appelle Poséidon et je suis métisse. Et elle aurait pu dire je suis noire, je suis blanche, je suis verte, enfin ça est passé inaperçu.
Tu penses que la société, elle a évolué sur le sujet du métissage ?
Non, mais elle va évoluer. Elle n'aura pas le choix. Les gens se mélangent. C'est un fait qui sera irréversible, en fait. C'est que les gens vont se mélanger aujourd'hui, vont se mélanger demain, indéfiniment, jusqu'à ce que peut-être qu'on ne formera plus qu'une seule race, on 10 000 quelque chose, mais je pense que les gens vont être amenés à beaucoup se mélanger, parce que même juste au niveau du climat, du fait que les gens bougent parce qu'ils n'ont pas de métier, je pense qu'aujourd'hui on est très dans la technologie, mais on va devoir revenir aux valeurs très essentielles de la vie qui sont faire attention à la nature, faire attention aux choses, travailler plus pour les gens et non pas pour les entités ou les grosses structures, parce que maintenant les gens sont assez las de bosser pour des inconnus, des grandes structures. Tout le monde veut faire un truc à lui, et je pense qu'on va revenir un peu dans ce côté artisanal des choses. Enfin, je l'espère. Les gens vont toujours bouger, ils vont bouger, ils bougeront, parce qu'il faut qu'ils bougent.
Est-ce que tu as fait des recherches à l'étranger pour voir ce qui était proposé dans la littérature jeunesse ?
Oh oui, eux, ils sont déjà beaucoup plus anglo-saxons. Ils sont beaucoup plus ouverts, mais je pense que il y a quand même encore des choses à faire.
Et alors, je fais exprès de te poser cette question. J'ai bien évidemment la réponse, mais je trouve que c'est important de souligner à qui il s'adresse ton livre.
À qui il s'adresse mon livre ? Je suis tentée de dire à tous les enfants. À tous les enfants, parce que je pense que ça peut être important d'apprendre même le métissage à ses enfants. C'est quelque chose, comme je dis toujours, qui est possible chez tout le monde. Enfin, pas que chez les Noirs, pas que Noirs-Blancs et Asiatiques-Noirs, enfin Blancs-Asiatiques, enfin... Tout le monde peut avoir quelque part une sorte de métissage. Enfin, mais non, ça, mais le propre aujourd'hui, c'est qu'on me dit qu'il faut que j'ai une cible, un cœur de cible qui soit les métis, et qu'après, en secondaire, j'ai tous les enfants. Mais je préfère rester dans un peu de naïveté et me dire que ça s'adresse aux enfants. Et tous les parents peuvent l'acheter pour leur enfant, mais vraiment tous les parents.
Alors, on va passer aux dernières questions de l'épisode. Ça a changé quoi pour toi de devenir maman ?
Tout. Tout. À partir du moment où j'ai été maman, ça a tout changé chez moi. Mais par rapport même à mon budget, qui m'était propre pour mes loisirs, que, que je n'ai plus... j'ai commencé à penser au futur, au lendemain, au climat... à sa façon de réagir, à ce que je l'achète. J'ai tellement réfléchi que maintenant, je veux tellement le meilleur, je pense, pour elle que j'ai changé toutes mes habitudes. Avant, j'étais un peu de celle qui mettait de longs cheveux, qui prenait un peu trop de temps sur elle, à mettre beaucoup de maquillage. Je voulais absolument être pouponnée, et quand j'ai couché, j'ai arrêté. J'ai drastiquement... J'ai voulu être moi pour lui apprendre que c'est beau d'être soi, et j'ai appris à rigoler beaucoup plus. Je rigole énormément, je fais des séances où on rit. Je célèbre la vie grâce à elle tous les jours. C'est génial d'avoir un bébé. J'aurais jamais pensé, mais quand on prend le bon côté d'un enfant, c'est un bonheur au quotidien, quoi.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une fée. c'est Wonder Woman, c'est une maman incroyable qui sait jongler entre l'étroitesse de Paris, l'étroitesse des rues, l'étroitesse de la vie. Et franchement, c'est admirable. Moi, j'ai beaucoup de respect. Je vais quitter Paris. je trouve qu'on ne prend plus le temps de faire les choses, on ne prend plus le temps de parler aux gens, on est confinés, on est... Non, il faut... C'est une maman qui assure, c'est une maman qui déchire. Une maman parisienne, c'est une maman qui déchire.
Ton endroit kids-friendly préféré ?
Franchement, ça existe. Parce que les rares fois où on va, on a l'impression d'embêter tellement les gens que je ne vais plus au restaurant du tout avec ma fille. Julie, non. Parce que si elle court entre les tables, ça va énerver plein de gens. J'attends que ma copine ouvre son Kilia Café.
Et quels sont tes projets pour toi et ceux en famille ?
Ah ! Messieurs, dames, je me casse à la campagne. Je vais à la campagne. Je vais faire un peu plus de vert, qui est ma couleur favorite. Et je vais découvrir les joies de faire un petit jardin, faire ses propres tomates, apprendre à son enfant à jardiner, être moins de pollution. Je veux une autre vie. Et pour moi, je vais écrire un second livre. Ce sera sur les violences à l'école. Chose qui me tient très à cœur parce que je n'ai pas toujours bien vécu l'école. Et je pense que c'est important d'apprendre, ce sera sur un fond d'estime de soi et d'apprendre aux enfants qu'on peut se défendre sans les poings, en parlant aux adultes, en essayant de ne pas garder pour soi qu'on est un peu violenté, maltraité à l'école.
Merci Lindsay.
Merci Mademoiselle Love.
Le livre « Je suis métisse » écrit par Lindsay est disponible en précommande sur son site madebyscotty.com. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lindsay, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 7 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast. Merci aussi à Ma Fabrique à Histoire pour son soutien au podcast. Vous pouvez commander le boîtier audio sur le site luni.com, L-U-N-I-I. Il y a 48 histoires incluses dedans pour faire vivre des moments magiques à vos enfants. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.